l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, c'est la rétrospective de l'actualité de la semaine. Manifestation, éducation, attentat et argent. Voilà de quoi on va parler. Alors manifestation, c'était la rentrée sociale cette semaine avec cette manif à l'appel de la CGT qui n'a pas été le raz-de-marée espéré par la centrale syndicale. Et le gouvernement se montre ferme. On ne peut pas bloquer la France, a déclaré Christophe Castaner. Il parlait, lui, de la grève en vue des routiers à partir du 25 septembre qui envisagent de bloquer les dépôts de carburant. Le porte-parole du gouvernement assure qu'on fera donner la force publique pour débloquer les dépôts si ça se produit. Un autre ministre qui a été à la une cette semaine, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'est donné une mission impossible, interdire le portable au collège. C'est une promesse électorale d'Emmanuel Macron, fini les portables au collège. C'est un enjeu de civilisation, affirme Jean-Michel Blanquer. C'est même un enjeu de santé publique. Pour lui, il n'y aurait même pas de débat, de discussion sur ce sujet. Plus largement, Jean-Michel Blanquer est pour un retour aux fondamentaux. Addition, soustraction, multiplication, division doivent être maîtrisées à la sortie du CP, selon le nouveau ministre de l'Éducation nationale, lequel a aussi annoncé une cellule laïcité au sein du ministère de l'Éducation pour venir en appui des profs confrontés au fondamentalisme islamiste dans les salles de classe. Deux attentats commis en fin de semaine. Le premier à Londres. Un engin artisanal a explosé. Il n'a fait que 22 blessés légers. Pas de morts, pas de blessés graves. L'engin terroriste aurait fait long feu. Et puis à Paris, un militaire a été attaqué au couteau en fin de semaine par un homme qui a crié à la Wakbar, vous êtes des mécréants, homme qui était né au Maroc en 1978. Il était armé d'une lame de 20 cm, mais le militaire a réussi à le maîtriser. Alors au sujet du risque terroriste, une nouvelle loi antiterroriste est en préparation. Elle va loin, très loin, dans la surveillance individuelle sur Internet. Liker, partager, retweeter, c'est être suspect, voire coupable. Car dans cette loi, on pourra être surveillé dès qu'on aura diffusé, par l'intermédiaire d'un like, d'un partage ou d'un retweet, un contenu jugé sensible. Plus loin encore, une personne surveillée pourra être obligée de donner tous ses identifiants de tout moyen de communication, c'est-à-dire identifiants et mots de passe de tous ses comptes réseaux sociaux sur Internet. Un Français sur trois a déjà été pauvre, a-t-on appris cette semaine selon le baromètre Ipsos Secours Populaire. 1 sur 5 indique avoir des difficultés à boucler son budget mensuel. Étude confirmée par l'Institut CSA pour Cofidis, 1 Français sur 3 est à découvert au moins une fois tous les 3 mois. Et en moyenne, il manque aux Français 484 euros pour vivre confortablement, selon eux. Chose qui ne va pas arranger le pouvoir d'achat, c'est le gazole qui va augmenter tous les ans pendant 4 ans de 2,6 centimes chaque année pour rejoindre progressivement le prix de l'essence, a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire cette semaine. Plus personne ne peut comprendre aujourd'hui que la fiscalité du diesel et de l'essence ne soit pas la même, affirme Bruno Le Maire. Une bonne nouvelle quand même pour le portefeuille, Internet gratuit partout en Europe. Alors, Internet gratuit dans les lieux publics. L'Union européenne a décidé cette semaine de débloquer 120 millions d'euros pour permettre l'installation de milliers de bornes Wi-Fi gratuites partout dans le continent, dans les lieux publics comme les parcs, les hôpitaux ou les bibliothèques, dans 6 à 8 000 villes et villages européens. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisi. Passez une excellente fin de week-end.
La météo de votre région sur RVE.
Vous avez besoin aujourd'hui du son d'Hervé 103.7, une petite laine et un parapluie, car aujourd'hui la météo c'est pas fameux, hein. Jusqu'à 14 degrés pour la maximale cet après-midi, et c'est un dimanche sous la pluie qui s'attend, qui vous attend. Allez, bonne journée à tous et merci de votre fidélité, bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec ce matin, eh bien, un invité. Il va être l'invité exclusif de cette émission Tribune Sport du dimanche 17 septembre, parce qu'il le mérite, c'est un véritable baroudeur, c'est notre ami Patrick Bonneau de Cernay-la-Ville. Patrick, bonjour. Première question, comment ça va 2 mois après votre aide solitaire?
Eh ben, ça va pas mal. Bon, le corps a bien morflé. J'étais très très fatigué, je suis encore fatigué, ouais. Mais ça va très bien. Quand on arrive à aller au bout de ses peines et au bout de son projet, c'est toujours à aller mieux, et puis à prendre les choses, comment dire, avec sourire, avec et récupérer plus vite aussi. Mais le corps est encore très fatigué.
Alors naturellement, on va revenir, hein, sur cette période, cette aventure humaine. Tout d'abord, un petit mot. On revient de Lima, du Pérou, où la France a obtenu les Jeux Olympiques 2024. Ça va être un booster énorme pour tout le sport français.
Ah ben oui, c'est sûr. Du reste, moi, quand j'ai préparé mon projet, j'ai voulu porter les coureurs de Paris 2024 parce que je me suis dit, ben pourquoi pas porter ces couleurs un petit peu partout autour de la planète. Donc j'aurais fait un courrier, ils m'ont répondu gentiment en me disant que mon projet était très bien, que ben voilà, ils me donnaient un t-shirt pour courir sous les couleurs de Paris 2024. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose de très important pour le sport français parce que on est les initiateurs des Jeux Olympiques modernes hein, et donc pouvoir récupérer c'est les centièmes JO. Ouais,
ça fera 100 ans, ça fera notre troisième JO après 1900 et 1924.
Ouais c'est ça. Et donc ça fait un moment qu'il y a du monde, je pense à Tony Estanguet, à tout le monde qui se bat pour avoir ces JO. Je pense que pour une fois, le Comité international olympique a fait quelque chose de très très bien. Et plutôt que d'éliminer un des deux, ils ont dit ben écoutez, on en donne un en 2028 et l'autre en 2024. Et je pense que ça satisfait tout le monde.
Oui, parce qu'on va rappeler que Los Angeles a obtenu les Jeux de 2028. C'est deux très bons dossiers, deux très bonnes candidatures.
Oui, donc pourquoi en éliminer un ? Donc je pense que le CIO était vraiment très très intelligent plutôt que de plonger dans 4 ans à dire qui est-ce qui fera en 2028. Donc moi j'ai trouvé que c'était très sportif et c'est très très esprit olympique d'avoir fait comme ça.
Alors Patrick, les Yvelines vont être naturellement concernées hein, par ces Jeux Olympiques. Il y aura le vélo, il y aura le VTT, il y aura les sports équestres, hein, notamment, et puis le golf, et puis peut-être d'autres épreuves comme le pentathlon. Donc on est plus que jamais récompensé à travers donc ces Jeux 2024 dans notre département, qui est le département numéro un en matière de sport, ne l'oublions pas.
Oui, ben alors pour nous on est super content, vous déjà parce que vous allez faire plein de directs, et puis nous ben pourquoi pas prendre du temps pour être bénévole, pour apporter notre aide sur ces organisations. Et c'est vrai que les Yvelines, ben, avec tout le terrain de jeu qu'on a, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir accueillir pas mal de disciplines sportives.
En tout cas, donc, vous l'avez dit, Patrick, grand moment, et naturellement, on va les faire vivre jusqu'en 2024, et même pendant ces Jeux, on accompagnera. Donc, c'est cette année qui nous reste à vivre ce moment historique. On voulait connaître au moins une fois les Jeux, on avait tout connu dans notre vie, hein, la Coupe du Monde de foot, tous les grands événements, il manquait que les Jeux d'été, ça va être chose faite.
Oui, c'est vrai que déjà en 92, quand on avait les JO d'hiver à Albertville, on était content. Ça avait été, bon, moi j'étais sur Lyon à l'époque, ça avait une bonne nièce. C'est vrai que ben, j'espère que je pourrai les vivre à fond ces Jeux Olympiques en 2024. Et puis pourquoi pas apporter un petit peu mon aide pour que tout se passe bien.
Je suis sûr que ça sera le cas. Allez, on revient sur ce fabuleux défi. Patrick, alors on va rappeler d'abord quel était pour les auditeurs le défi que vous étiez lancé et comment est arrivée cette idée, comment le projet a germé.
Bah alors,
je sais que vous avez toujours des projets en avance. Hein.
Oui, bah, des projets, j'ai la chance d'en avoir pas mal et puis encore plus de chance d'avoir l'opportunité de les mettre à exécution. En fin de compte, depuis toujours, je rêve de voir le désert de Gobi. Et donc l'organisateur de la 333 que j'ai couru 333 km, donc c'est dans les différents déserts. J'avais couru ça en Mauritanie, j'avais couru les 555 km dans le désert du Ténéré. On avait traversé le désert du Ténéré, donc c'est des courses qui sont non-stop. A dit ben cette année j'organise le 333 dans le désert de Gobi. Donc ben je me suis dit ben moi j'ai envie de voir le désert de Gobi, donc j'y vais. Et puis en même temps voilà, c'est une épreuve sportive, ça me plaît. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais bon, donc je ne veux pas être prétentieux, hein, mais je me suis dit, moi je veux toujours essayer de faire un petit peu plus. Je me suis dit, ben, 333 km pour moi qu'ils aient déjà fait, c'est pas un défi. Donc qu'est-ce que je peux faire? Et donc j'ai toujours eu envie de traverser les États-Unis, donc je me suis dit, ben, je suis complètement à l'ouest là-bas, en Mongolie. Pourquoi pas prendre un avion et puis aller aux États-Unis et puis traverser les États-Unis en vélo. Donc ben voilà, j'ai prévu de prendre mon billet d'avion pour aller à Los Angeles et puis un billet d'avion de New York à Paris. Donc je me suis arrêté là-dessus, puis après je me suis dit ben c'est dommage, je fais deux choses sur deux continents. Pourquoi pas faire un dernier truc en Europe, quoi, en Asie, hein, aux États-Unis et puis en Europe. Donc j'ai dit bon ben je suis originaire de Lyon. J'ai dit ben en revenant des États-Unis, au lieu d'atterrir à Paris, je vais aller directement à Lyon, je vais aller faire la bise à ma mère et je vais remonter à pied de Lyon jusqu'à Cernay-la-Ville. Mmh. Voilà comment ça a germé. Ça a germé donc 3 mois avant le départ. Donc, je ne peux pas dire que ma préparation a été optimale, mais j'ai acheté tout de suite les billets d'avion pour ne pas faire marche arrière. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça.
En 3 mois, comme ça ?
Oui, oui. Bon, après, j'ai la chance de, d'avoir traversé l'Europe, enfin, fait des courses qui sont assez longues et d'avoir appris à connaître mon corps, savoir comment mon corps réagit. C'est vrai que, surtout dans la souffrance. Et donc, ben voilà, il fallait surtout pas... Il fallait que je prenne les billets d'avion rapidement parce que je me serais rendu compte vraiment que ma préparation aurait pu être un petit peu juste. Donc j'ai pris les billets d'avion et puis je me suis mis à fond dedans, quoi. À fond dedans. Donc aller au boulot en vélo, courir le midi, ou aller au boulot en courant, courir le midi, revenir le soir. Enfin, voilà, c'était en dehors de mes heures de travail, c'était entraînement à fond, quoi.
Alors, on va le dire, vous avez marché, vous avez couru et donc vous avez fait du vélo, hein.
Voilà. Donc au début, on court et puis quand on est fatigué, ben, on marche. Mais bon, faut pas marcher doucement parce que donc au désert de Gobi, c'était une course, hein. L'appui, c'était une course, hein. On était une quarantaine, principalement des Français. Et donc voilà. Et puis après, une fois que le désert de Gobi est passé, fini, donc ben, c'était du vélo. C'était 4800 km entre Los Angeles et New York. Et après, après l'avion jusqu'à Lyon. Et Lyon, ben, au début, j'ai couru 40 km. Et puis ben, après, ben, les blessures, mon corps s'est dégradé et j'ai dû marcher pendant tout le reste du temps pour arriver à Cernay.
Alors, on va rappeler la date, Patrick. Hein, ouais. C'était de la mi-juin à la mi-juillet.
Voilà, donc la course dans le désert de Gobi, donc c'était du 10 au 15 juin. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire le parcours en 3 jours et demi. Donc ça m'a donné 2 jours de récupération. Ensuite, le 17 juin, je prenais l'avion pour aller à Los Angeles. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris l'avion à 11h du matin à Ulaanbaatar en Mongolie. J'ai voyagé pendant 17 heures et je suis arrivé à Los Angeles le même jour à 2h d'après-midi. Donc, j'ai eu une journée de 35 heures où j'ai pas vu la nuit. Le lendemain, donc je suis arrivé le 17 juin, le lendemain à... Donc j'avais un copain qui m'attendait à Los Angeles avec mon vélo. Et le lendemain, à 8h30, le 18 juin, je suis monté sur mon vélo et je suis parti de Los Angeles. Donc je m'étais donné jusqu'au 8 juillet, je m'étais donné 20 jours. Et le 9 juillet, je prenais l'avion pour revenir en France. Et le 10 juillet, je démarrais de Lyon pour revenir à Paris où je n'avais qu'une semaine parce que je rebossais le lundi matin.
Et vous êtes arrivé à Cernay-la-Ville, non ?
Oui, je suis arrivé à Cernay-la-Ville. Alors,
tous les applaudissements, c'était le 15 juillet. Hein.
Alors, c'était le 16 juillet.
Le 16.
Le 16 juillet, c'est le jour d'anniversaire de ma fille. Donc, voilà. Et puis, ben, j'ai eu la chance d'avoir un accueil fabuleux grâce à des amis coureurs, notamment Viviane Pérignon qui habite à Cernay, qui s'occupe du club de Cap Cernay. Et en fin de compte, qui a averti tous les copains et qui m'a fait la surprise. Ils m'ont fait une arche d'arrivée. Et j'ai fini avec 30 personnes qui couraient avec moi sur la route et au moins peut-être le double encore qui m'attendaient sur Cernay, sur la ligne d'arrivée. J'ai eu vraiment un accueil magnifique, très touchant. Je pensais arriver tranquillement, prendre ma douche et puis retourner le lendemain au boulot. Et là, j'ai eu un accueil merveilleux. Tout le monde avait préparé un petit truc à manger, un petit truc à boire. C'était un moment de convivialité vraiment merveilleux, merveilleux. Un moment de partage. Et c'était très fort. Et j'oublierai jamais ce moment.
Oui, parce qu'il faut quand même remettre le contexte. C'était le week-end du 14 juillet prolongé. C'était les vacances, c'était le Tour de France. Donc, vraiment, rien n'était fait pour vous accueillir. Je suppose qu'il y a eu des larmes, Patrick.
Ah ben oui, oui. Et puis surtout que moi, tellement j'étais dans la souffrance, j'étais pas sûr de pouvoir arriver le dimanche. Hein. Tout le monde suivait où j'en étais. J'avais une balise dans le dos pour signaler ma position. Et j'étais vraiment dans la souffrance où je pouvais plus avancer. Donc, j'ai Viviane et deux autres copains qui sont venus me chercher à 40 km de l'arrivée, qui m'a donné un grand, grand coup de fouet pour pouvoir avancer. Et grâce à eux, j'ai même ma famille qui est venue exprès de Lyon pour faire les 30 derniers kilomètres avec moi, ma sœur et ma maman, qui sont venus pour voir mon arrivée. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de démesuré. J'ai eu un accueil vraiment fabuleux. Et c'est vrai que je suis arrivé le soir à 8h30, mais j'aurais très bien pu arriver sans eux le lendemain à midi, tellement j'étais dans la souffrance.
Ah oui, c'était pas programmé. Il y avait une fourchette de jours, d'heures, mais dire voilà, je vais arriver au journal télévisé, comme ça se fait parfois pour les marins. Non, c'était pas. Vous êtes arrivé le soir, vous l'avez dit, à 20h30, fin du week-end prolongé, voilà quoi.
Alors, ce qui était programmé à la base, moi, ce que j'espérais, c'est d'arriver le samedi pour avoir.
Oui, le 15. C'est pour ça que j'avais parlé de la date du 15.
Oui, moi, j'avais demandé, j'espérais arriver le samedi parce que pour avoir une journée de repos avant de reprendre le boulot le lendemain. Donc et j'aurais très bien pu arriver le 17 parce que j'avançais à 4 km/h, à 3 km/h par moment. J'avais beaucoup de mal.
Alors, dans les jours qui suivent, d'abord, comment est-on ? Est-ce que c'est la plus belle aventure humaine que vous ayez vécue ?
Alors, la plus belle aventure humaine, moi, je relative beaucoup.
C'est celle de demain ?
Oui, non, mais après, moi, j'ai vécu vraiment des belles choses en famille avec mes enfants. Et donc, ça, c'est des choses... Après, c'est une chose personnelle, des courses comme ça. La plus belle, ça a été la plus douloureuse. Et peut-être, oui, elle est belle parce que je faisais ça au profit d'un orphelinat où je vendais mes kilomètres pour récolter des fonds pour un orphelinat. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est beau de voir que, comme on est suivi, enfin, moi, je pensais pas que j'allais être suivi comme ça. Et puis, grâce à Facebook, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui suivait ça. J'ai changé le quotidien de beaucoup de personnes. Le matin, il y a des gens qui se levaient et qui allaient voir Facebook pour savoir où j'étais, qui allaient voir la balise où j'étais. Et pour moi, c'est vraiment, c'est vrai. Alors, la plus belle aventure humaine, c'était une très, très belle aventure. Après, moi, la Trans-Europe, quand j'ai fait la Trans-Europe, c'était très beau aussi. Je n'arrive pas à la qualifier de plus belle, mais peut-être la plus éprouvante.
Et dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, comment est-on ? Parce que on est à la fois très fatigué, vous l'avez dit, on est rincé, il y a un manque, il y a quoi ? Il y a un coup de blues ? Un gros coup de fatigue ?
Ah ouais, bon, oui. La fatigue, ça c'est sûr. Hein. Moi, quand j'ai retrouvé mon lit, on était contents de se retrouver tous les deux. Hein. Le lendemain matin, quand le réveil a sonné pour aller au boulot, ça a été difficile. Non, moi, déjà, je savais que je bossais le lendemain. Donc, je me formate. Je me dis, c'est comme ça. Ça va durer jusque-là et telle date, tu vas reprendre. Après, je vous assure que il y a eu beaucoup de partage avec les collègues, avec les copains. Il y a eu beaucoup de bouffe parce que j'ai quand même perdu 7 kilos pendant le périple. Donc, tous les petits restos avec les copains, donc ça a permis de se requinquer. Et puis on est sur un nuage, on n'a pas envie de redescendre. Depuis que je suis revenu, j'ai pas allumé la télé, quoi.
C'est une question que j'allais poser parce que il y a fatalement une petite décompression, un petit coup de blues. On trouve la vie triste, même si on est dans un coin qui est fabuleux. Le premier feu rouge, par exemple, comment on fait ?
C'est vrai que je suis resté pendant 2 mois sans conduire une voiture. Donc voilà. Alors coup de blues, non, vraiment pas, parce que je veux vraiment pas en état. Je pense que le coup de blues, si j'avais raté mon défi, je pense que je l'aurais eu. Pas de coup de blues, non, au contraire, très très positif. Et j'écoutais pas la radio, regardais pas la télé, parce que pendant 2 mois, je n'ai pas eu d'informations néfastes, c'est-à-dire que j'ai jamais entendu parler d'agression, j'ai jamais entendu parler d'attentats, d'accidents, etc. Les seules choses que je voyais, c'était des choses qui étaient agréables, mis à part aux États-Unis où j'ai beaucoup souffert avec la circulation qui était très dangereuse, mais tous les contacts avec les gens que j'ai eus, ça a toujours été très 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 convivial et aucune information négative. J'ai pas entendu parler d'accident, j'ai entendu parler de rien.
Il y avait beaucoup d'espoir au mois de juillet-août quand même. Hein.
Oui.
Là, c'est plutôt rassurant comme actualité.
Oui, c'est vrai. Mais bon, j'étais un petit peu déconnecté et puis bon, c'était avancé. Enfin, moi, mon programme, quand j'étais dans Désert de Gobi, donc au point de vue comme pour les informations, on était un peu loin pour avoir des nouvelles, mais Désert de Gobi, c'était 333 km non-stop. Donc j'ai dormi peut-être 4 heures sur les 3 jours ou 5 heures sur les 3 jours. Aux États-Unis, j'ai beaucoup souffert dans le désert, mais après c'était de 6h du matin à 9h du soir du vélo. Donc à 9h, on regarde vite fait les messages des copains, où on se fait lire par. J'en profite pour remercier la personne qui m'a accompagné sur ce périple-là, c'est Xavier.
Oui, on l'a eu au téléphone pour prendre de vos nouvelles, hein, entre nous. Hein.
Oui, et qui a été vraiment exceptionnel parce que il faut savoir tenir quand même, être disponible 24 heures sur 24, et il l'a été. Il a été jusqu'à me soigner, me faire à manger. Enfin, voilà, j'arrivais, mes bidons étaient prêts. Enfin, bon, c'est vrai que c'est vite fait avec moi les bidons, mais. J'avais pas à courir après mes bidons, ils me remettaient directement mes bidons sur le vélo, le repas était prêt, enfin c'était donc je remercie parce que sans lui j'aurais pas fait la moitié du parcours, hein. c'était vraiment il a beaucoup souffert lui aussi et donc oui c'était je sais plus la question qu'on disait c'était C'était quelque chose de...
Ouais, il y avait... Le retour au quotidien, ouais, est-ce voilà, que c'est possible
ouais. C'était, ouais, il n'y avait rien de néfaste, c'était que des bons contacts avec les gens. Enfin, voilà, on rentrait dans des bars, on avait des farmers en salopette, on se mettait à leur table et puis on mangeait et puis ils me disaient « You're crazy, man, you're crazy ». Mais c'était sympathique,
On remarquait, les Américains aiment ce genre d'exploit. Ça, c'est typiquement américain, ce genre d'aventure individuelle.
Alors, ils aiment pas les cyclistes, ça c'est sûr. Moi, j'ai rencontré sur les 4800 km, j'ai rencontré deux cyclistes. Hein. Donc, sur 18 jours, j'ai rencontré deux cyclistes et je me suis fait agresser par les. Les coups de klaxon, par les insultes, par les gestes, mais que par les automobilistes, hein, les gars dans leur pick-up ou dans leur voiture, ils n'aiment pas qu'on soit sur leur route et qu'on les... Voilà, en ville, moi, je me suis fait bloquer, j'ai pris des coups de pare-choc, des coups de rétro, heureusement que ça roulait pas vite, mais dès qu'on était arrêté, les Américains venaient vers nous, donc dans les stations, c'est des lieux de vie, hein, c'est comme des épiceries ici. Et ben ils venaient, ils discutaient et c'était hyper convivial. Moi j'ai même des Américains qui ont participé au don pour l'orphelinat quoi. Ils m'ont envoyé un don pour l'orphelinat. Donc ils adorent ce genre d'exploit. C'est vrai que moi je me suis fait des amis américains en les en ayant rencontrés qu'un quart d'heure quoi.
Ouais. On les verra sur Cernay alors au marathon.
Ah ben moi si je peux les inviter, si je peux les faire venir, c'est sûr quoi. C'est voilà, ils ont porte ouverte. Et voilà, mon rêve, ce serait de pouvoir. Je sais que bon sur Facebook, moi je communique pas beaucoup, mais on a communiqué et sur mon arrivée à New York, il y a eu plus de 8000 vues sur mon arrivée à New York. Je me dis mais ce serait merveilleux de faire un grand pique-nique quoi, de venir et puis dire bon ben je vous remercie quoi de m'avoir suivi, de m'avoir encouragé, de m'avoir aidé. C'est vrai que si je pouvais réunir tout le monde, ce serait, pour moi, ce serait, ouais, je pense que ce serait un très très beau moment, quoi. Dire merci, voilà, un moment de partage. Alors, sans parler de, alors, il y a des gens qui me disent que c'est un exploit. Moi, je le considère vraiment pas du tout comme un exploit, mais simplement l'accomplissement d'un projet. Et, mais c'est vrai que c'était très, ce serait super, quoi, que je puisse retrouver tout le monde, parce qu'il y a des gens sur Facebook qui, je connais que leur pseudo, et je les ai jamais vus, et ils m'ont envoyé des messages merveilleux.
Alors, du rêve à la réalité, comment on y arrive, Patrick? Parce que ça coûte un peu d'argent, il y a des moyens logistiques à mettre en place. En 3 mois, comment ça se concrétise?
J'ai eu la chance.
Pour les billets d'avion, il faut pouvoir dormir quelque part.
Oui, voilà, c'est un budget, on prend sur les économies. Mmh. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir. D'avoir un ou deux mécènes qui m'ont aidé. J'ai eu de très bons contacts donc avec par exemple la banque BFM qui m'a aidé aussi. Je les cite hein, parce que sans eux j'aurais pas pu le faire. J'ai eu Solustop avec les balises et puis j'ai eu Cybervélo qui m'a tout fait la préparation de mon vélo. Donc j'ai eu
ça très vite hein.
Oui, il fallait que ça se fasse vite et donc les mécènes, tout ça, les sponsors. Donc bien sûr, j'ai pas couvert mon budget hein, bien sûr. J'ai dû piocher à droite à gauche mais ça en valait la peine quoi, ça en valait la peine. Et puis voilà, c'est vrai que les billets d'avion ça coûte une blinde. En plus comme je voulais une assistance, c'est à moi de payer les billets de mon assistance, etc., la location de la voiture. On a eu de la chance, on a eu un accident en voiture parce que mon pote qui m'assistait il me suivait dans le désert. En fin de compte, dans le désert, j'avais énormément de mal à pédaler. Donc, je prenais 70 degrés à peu près dans la journée, dans la figure, quand en chaleur. Et j'étais obligé de m'arrêter tous les 3 km pour mettre des pains de glace sur le corps pour faire redescendre la température. J'arrivais pas à avancer. Donc, j'ai voulu avancer la nuit. Et en fin de compte, comme il me suivait pour me protéger la nuit, il s'est endormi au volant, il est allé dans le fossé. Donc, on a eu la chance qu'il n'y a pas eu de dégâts. Mais déjà... physique et après pour la voiture aussi si ça peut vite monter le budget quoi hein. Mais déjà qu'on l'a dépassé, mais bon c'est vrai que du rêve à la réalité, de toute manière il faut, si on attend de
oui, d'avoir on trouvera pognon, toujours des prétextes
ouais voilà il fallait partir et puis voilà bon j'ai la chance, voilà.
Et alors
voilà.
Après, physiquement, il faut être prêt quand même, il faut se préparer, même si vous l'avez dit, vous étiez un peu juste, et puis mentalement aussi.
Ben, je pense que le mental, ça a été le plus gros. Hein. Donc sur le désert de Gobi, au bout de 50 km, je me suis blessé, j'ai eu mal à un releveur, mais j'étais dans le bon peloton. Donc on a fini avec deux autres coureurs, on a fini troisième même, donc on était contents. Après, j'ai eu deux jours pour récupérer. En vélo, j'ai pas ressenti ma blessure. Mais le désert, pendant une semaine, ça a été vraiment, vraiment horrible. Et puis en France, comme j'ai souffert des pieds, j'ai dû prendre sur le mental. Et c'est vrai que le mental, heureusement qu'il était là.
Mmh. On récupère comment? On a des soins? Comment ça se passe, Patrick?
Des soins, moi je suis un peu brute de pomme, donc les soins, malheureusement, je m'en fais pas trop. Quand j'ai des ampoules, je les perce, et puis quand elles reviennent, je les reperce, et puis je mets un paradrap dessus. Quand il y a du pus, j'essaye d'un peu les désinfecter. Je suis pas préventif, je suis plutôt curatif. Je me mets pas de crème pour me préparer les pieds. Malheureusement, il faudrait que je sois un peu plus sérieux là-dessus, mais... Voilà, je veux me retrouver face à moi-même, face à mon état, savoir si je suis capable de surmonter ces épreuves-là. C'est vrai que c'est une recherche que j'ai en moi pour savoir si je peux surmonter des épreuves douloureuses, etc. Alors c'est pas ce que je cherche, hein. J'aurais préféré finir en courant en 4 jours, hein, le Lyon-Paris, j'ai mis 6 jours et demi, je pense que j'ai la chance de jamais vouloir lâcher, parce que je me dis que j'avais mes enfants au téléphone qui s'inquiétaient, j'avais des copains qui s'inquiétaient aussi et qui me disaient tu sais, tu peux t'arrêter, que t'as quand même fait quelque chose d'exceptionnel aux États-Unis, mais si j'avais arrêté en cours de route, même à 50 km, ça effaçait tout ce que j'avais fait avant. Donc autant aller jusqu'au bout, même si je mettais 10 heures de plus, mais je peux pas arrêter, quoi. C'est pas dans mes gènes.
Et en France, on vous a encouragé sur le bord des routes?
Alors non, parce qu'il n'y avait aucune communication, mais on m'a encouragé autrement. C'est-à-dire que moi, je suis parti en autonomie en France et en disant que je vais à la rencontre des gens. Donc je suis parti avec deux slips, deux paires de chaussettes, mon sac à dos et deux sacs en plastique, deux sacs poubelles en guise de sac de couchage, pour pas que ce soit trop lourd, et une brosse à dents. Et je me suis dit, je vais aller à la rencontre des gens, donc un peu lyophilisé. Et je suis allé à la rencontre des gens, et là j'ai rencontré des gens mais vraiment merveilleux, quoi. Je me suis retrouvé à 6h du matin en train de déjeuner à une table. À 8h du soir, je frappe chez quelqu'un pour avoir de l'eau chaude, et je me retrouve à la table en train de manger une entrecôte avec des légumes, et spontanément, quoi, j'ai eu des rencontres merveilleuses. Dans le Morvan, avant d'arriver dans le Morvan, je suis affamé, j'ai passé une nuit horrible à essayer d'avancer, j'ai dû faire un détour parce qu'il y avait une route dangereuse, donc j'ai fait au moins 10 km, donc 10 km c'était très long pour moi à pied, et je me retrouve dans un village, je cherche des commerces, il n'y a plus de commerce, et je vois des gens qui sont en train de courir, je leur demande où est-ce que je peux trouver quelque chose à manger, et on me dit, il n'y a rien dans le coin, et ils m'ont dit, venez à la maison, et ils m'ont sorti le petit déjeuner, la baguette. Je leur ai tombé la baguette, mais je suis reparti. Mais j'ai eu des accueils merveilleux. Alors j'étais hirsute, hein. J'avais les cheveux longs dans tous les sens, j'avais la barbe. Ma mère me disait, mais tu trouveras personne qui te trouvera d'eau. Mais en fin de compte, je crois que quand on parle avec son cœur, avec ses yeux, puis j'étais en tenue de sportif aussi, en fait, je faisais pas un vagabond non plus. Les portes se sont vraiment ouvertes, j'ai personne qui m'a refusé quoi que ce soit. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir des accueils merveilleux. Il y a même, je me suis fait assister 2 jours parce que j'étais vraiment pas bien. Et il y a deux jeunes à Puiseaux, des jeunes d'une vingtaine d'années. J'ai une amie qui m'a suivi pendant 2 jours pour essayer de m'aider à me nourrir. Et il y a deux jeunes d'une vingtaine d'années. Qu'on pourrait qualifier de jeunes de cité, et elle demande, il n'y a rien à manger et tout, et elle explique ce que je fais. Les deux jeunes sont montés chez eux, ils ont fait cuire une purée et 2 beefsteaks, et ils sont descendus, j'ai mangé ça sur la place du marché, et ils ont fait ça spontanément, et c'est des moments qui sont magiques, c'est un autre contact avec la population, et les gens, moi, les gens m'ont même remercié, c'est ça qui est dingue, les gens m'ont même remercié d'être passé chez eux, de m'être arrêté, d'avoir sonné, de les avoir réveillés, pour partager mon aventure. Ils m'ont suivi sur Facebook. Enfin, vraiment, vraiment quelque chose, ouais, des échanges merveilleux. Ouais.
Allez, on marque un petit break, une petite pause musicale et puis une petite page de pub. Et on repart ensuite sur cette merveilleuse et passionnante aventure.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 place de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry-Pontin.
Attention, n'hésitez plus, les derniers lots sont à vendre à Pont-Évrard. Alors appelez rapidement le 01 30 41 22 13, 01 30 41 22 13 et devenez Ivry-Pontin.
Du 18 septembre au 7 octobre 2017, La Bastienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement, vous offre sur toutes les portes et fenêtres Jeannot le pack de votre choix. Le pack sécurité pour vous protéger contre les cambriolages ou le pack déco pour des fenêtres à votre image. Venez vite en magasin faire votre choix. Les devis sont toujours gratuits. À Bastienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, Opéret en Yvelines.
justement, vous avez parlé beaucoup d'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange quand on ne se fait pas inviter chez les gens, quand on est en pleine course?
Je vais étonner beaucoup de monde. Bon, déjà, sur le désert de Gobi, c'était une course qui était organisée, mais c'était à nous de prévoir nos ravitaillements. Donc, moi, mes ravitaillements, c'était donc tous les 20 km, on faisait déposer ce qu'on voulait manger. Donc, moi, c'était une boîte de pâté, une compote, du pain de mie et un lyophilisé, style bolino ou de la purée. Donc, voilà, je me suis nourri de ça. Et aux États-Unis, bon, j'ai eu la chance d'avoir mon pote qui m'a fait mon assistance, donc il me faisait des plats de pâtes, il me faisait des salades. Donc là, je me suis bien nourri. Par contre, en France, ça a été que quelques lyophilisés, du sandwich, et le soir, de temps en temps, quand j'arrivais pas trop tard dans un village où pouvait y avoir un commerce, je me suis fait deux fois un resto. Mmh. Où j'ai mangé chaud. Pour moi, c'était important, mais autrement, c'était principalement du sandwich, donc une alimentation pas du tout adaptée.
Oui, mais on est obligé sur ce type d'effort sportif parce que on peut pas tenir.
Avec une assistance, ça aurait été beaucoup plus facile. Avec un camping-car, par exemple, c'est voilà, hein, quelqu'un qui puisse faire à manger et rapidement. Mais si on peut tenir, hein, en mangeant un croûton de pain, en mangeant voilà, et puis ma boisson. Ça a été de l'eau, sauf aux États-Unis où, quand je m'arrêtais pour manger, là, je vidais des bouteilles de limonade. Mmh. C'était du sucre rapide pour moi. Mais autrement, c'était que de l'eau que je récupérais dans les cimetières, dans les fontaines ou chez les gens. Mais autrement, la bouffe, c'était vraiment... j'ai été affamé. Hein. Souvent, j'étais affamé, mais je manquais. Hein, parce que, pour dire, sur la faim, je marchais... je dormais 5 minutes par-ci dans un fossé, 5 minutes par-là dans un abribus. Et en fin de compte, les derniers jours, je marchais peut-être 22 heures sur 24. Donc, parce que je voulais arriver dans les temps et donc fallait pas que je dorme. Mm-hmm. Donc, j'étais vraiment épuisé, j'étais affamé et j'aurais mangé de l'herbe, hein, s'il fallait, hein. Oui. J'aurais mangé de l'herbe, hein. Mais voilà, donc il y a toujours eu une petite porte qui s'est ouverte et qui m'a fait un café, qui m'a sorti une madeleine, qui m'a sorti un bout de pain. Mais j'avais pas du tout une nourriture adaptée pour du sport comme ça. Mais on peut y arriver quand même avec la volonté.
Et là maintenant, pour récupérer vos 7 kilos là, parce que c'est pas le poids de forme, en dessous des 7 kilos, c'est pas votre poids de forme.
Ah bah non, c'était loin du
poids. Vous êtes en dessous là. Hein.
Je suis parti avec le poids de forme et je suis revenu avec en dessous de mon poids de forme. Ben, pour dire, en une semaine, avec l'invitation des copains à droite à gauche, c'était repris. Donc voilà, et puis ben, par contre, c'est vrai que derrière, comme j'ai été affamé, le corps a manqué et j'avais envie de manger tout le temps, manger, j'avais plus faim, mais il fallait que je mange. Je pense qu'il y avait vraiment eu un manque. Jusqu'à être plein, quoi, plus pouvoir bouger, plus pouvoir avaler quoi que ce soit. Donc, vous savez, maintenant tout s'est remis, un mois et demi après l'arrivée, presque deux mois, ouais, tout s'est bien remis, et puis voilà, je pense pas avoir pris trop de kilos non plus.
Et puis le sommeil, parce que effectivement, donc, vous êtes passé du désert de Gobi en Amérique, vous êtes revenu en Europe, donc vous l'avez dit, hein, il y a eu des décalages horaires assez importants. Comment on gère aussi tout cela? Et après, comment on retrouve ce rythme normal de sommeil?
Ben, en fin de compte, il faut se dire que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Mmh. Donc, quand c'est vrai qu'il y a eu un gros décalage horaire quand je suis arrivé aux États-Unis. Donc, je me suis dit, ben, t'es fatigué, ben, tu pédaleras quand même. Et puis, quand tu seras fatigué, ben, quand tu seras trop fatigué, tu vas dormir, ben, tu dormiras 10 minutes. En fait, j'ai la capacité, à force d'avoir fait mes périples, de me poser et m'endormir 20 secondes après.
Ouais, comme un marin, quoi.
Voilà, ouais. Exactement. C'est ce qu'on m'avait dit. Les marins, ils font des quarts. Donc, je dors 5 minutes, des fois 2 minutes, des fois 10. Quand ça suffit pas, ben, je fais 12, 15. Voilà. Et donc, j'ai récupéré en faisant des micro-sommeils comme ça. Et notamment en France, quand je suis revenu, où fallait que j'avance et pas que je me repose, c'était des sommeils de 2, 5 minutes. Et puis, des fois, ça durait qu'une demi-heure. Une demi-heure après, je me reposais 5 minutes dans un fossé, je redormais et je repartais. Et puis, ça tient au bout d'un moment. Mmh. Voilà, on sait, de toute manière, il faut avancer, quoi.
Et là, vous avez retrouvé votre rythme, ça y est, assez rapidement.
Oui. Tout de suite, de toute manière, j'ai pas de problème pour dormir. Donc, tout de suite, j'ai bien dormi. Après, bon, c'est vrai que le corps est fatigué, donc il a peut-être besoin de dormir un peu plus. Mais oui, j'ai retrouvé mon rythme assez rapidement. J'ai eu cette chance-là, oui. Ouais.
Alors Patrick, c'est à la portée de tout le monde, ça. Parce qu'on l'a dit, hein, beaucoup veulent vivre des aventures comme vous. Si on fait un peu de sport, si on le veut, c'est possible.
Je vais dire deux choses. On me dit souvent, ouais, c'est exceptionnel, c'est pas pour tête tout le monde. Pour moi, je me dis que c'est tout le monde ne veut pas le faire. Donc quand on veut pas le faire, on peut pas le faire. Déjà et d'une. Maintenant, quand on veut le faire, on s'ancre pour ça. On se met ça en tête. On se prépare sans se mettre trop la pression. Et voilà. Donc je pense que ce que j'ai fait, c'est que c'était faisable. Et je pense que tous ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Donc ça, c'est sûr, c'est tout ce... Voilà. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a de la souffrance et il faut accepter la souffrance et avancer encore. Maintenant, j'ai la chance, c'est vrai, j'ai la chance, mes 50 ans passés maintenant, on m'a demandé de faire un test à l'effort parce que j'ai la chance d'avoir une bonne capacité cardiaque. Ouais. Donc, ce qui m'aide beaucoup pour la récupération. J'ai fait ça à Clairefontaine, là, au centre de foot. Hein. Et c'est vrai que le médecin était quand même assez étonné de mes capacités cardiaques après à mon âge. Donc j'ai cette chance-là. Mais je pense qu'il faut vraiment se mettre ça en tête. C'est à la portée de tout le monde. Il faut vraiment le vouloir. Et se dire, si j'arrive pas tel jour, j'arriverai le lendemain. Et puis voilà. Mais franchement, je pense que tous ceux qui veulent le faire peuvent le faire.
Et là, sportivement, on s'arrête combien de temps? Après, vous avez parcouru depuis combien de temps? Depuis le 16 juillet?
Ah ben oui, entre le 16 et le 23 juillet, j'ai pas couru, c'est sûr. Mais
c'est indispensable avant de s'arrêter après.
Ouais, mais j'ai pas pu, je peux pas. Au bout de 10 jours après mon arrivée, j'avais besoin de tester mes pieds parce que en fin de compte, j'ai fini avec j'avais plus de peau sous les pieds. Du reste, ils sont pas refaits un mois et demi après. J'ai recommencé à faire un petit peu de vélo, à trottiner. Ça y est, là je fais quotidiennement du sport, hein, depuis 15 jours, je cours. Pour petite info, je suis allé faire la bise à ma mère encore la semaine dernière, et plutôt que de remonter en voiture, je suis remonté en vélo.
Et alors, comment on est? On t'en passe les jambes malgré tout?
On est fatigué, hein. On est fatigué, ouais. Ouais, il y a la fatigue, je pense que. Il faudrait que je sois un peu plus sérieux sur la récupération, mais j'ai tellement envie d'être dehors, de faire, de revivre ces moments où j'étais en communion avec la nature, que voilà, je peux pas rester assis dans un bureau ou quoi que ce soit. Donc entre midi et deux, pendant la pause du déjeuner, je vais me faire un petit footing de trois quarts d'heure, une heure, mais j'y vais doucement pour essayer de préserver mon corps quand même, parce qu'il m'a beaucoup donné et je lui dois bien un peu de repos quand même.
Alors, vous n'allez pas laisser ça comme ça. Vous êtes venu nous raconter votre aventure ce matin. Il va bien y avoir des films, des récits qu'on va peut-être pouvoir voir à Cernay-la-Ville ou ailleurs.
Alors, c'est vrai que déjà, Hervé, vous êtes la radio privilégiée. Hein, on s'est beaucoup suivi un petit peu sur tous les événements que j'ai faits. C'est vrai qu'on me demande beaucoup, est-ce que tu fais un livre, est-ce que tu vas faire une conférence? Alors, j'aimerais bien, mais je veux faire ça correctement, donc ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, c'est vrai que j'étais vraiment dans l'esprit du sport et puis du dépassement et puis d'avancer, parce que j'étais vraiment limité en temps, que malheureusement, je suis limité en photo, en film, etc. Donc, alors, j'aurai toujours un petit peu d'appui. Mais je veux pas faire des choses à moitié. Je veux pas dire je vais réunir des gens et puis leur montrer trois photos qui sont pas belles ou quoi que ce soit. Donc je vais prendre mon temps, je vais faire le tri, et je vais reprendre tous mes récits sur Facebook. Et puis je pense que oui, parce que il y a des gens qui méritent que je leur raconte ça. Moi je pense que c'est pas pour mettre en avant, mais je pense qu'il y a des gens qui méritent, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça à fond, et je pense que ce serait bien que je fasse ça pour eux.
Alors, trois continents, et puis bientôt cinq peut-être.
Déjà, je reste là-dessus. C'est vrai que quand on finit quelque chose et qu'on le réussit, on a tendance à vouloir dire qu'est-ce que je peux faire d'autre et comment je peux faire. C'est vrai qu'il y a plein de choses que je voudrais faire. J'ai de la chance déjà d'en avoir fait beaucoup. Après, il faut du temps, il faut de l'argent. Moi, je suis obligé de travailler, hein, j'ai une famille à nourrir. Maintenant, s'il y a un sponsor qui me dit, moi, je veux que vous portiez mes couleurs autour de la planète, moi, je suis capable d'arrêter de travailler, hein, pour faire ça. Cinq continents, faudrait qu'il y ait un sens. Pour courir sur cinq continents, pour dire je cours sur cinq continents, il faudrait qu'il y ait un sens, il faudrait qu'il y ait un challenge particulier. Je fais pas ça pour moi, pour me montrer. Je fais ça parce que faut qu'il y ait un sens sur quelque chose. Là, il y avait un sens. Je partais, depuis l'âge de 20 ans, j'ai envie de traverser les États-Unis. Ben, voilà, j'avais envie de voir le désert de Gobi. Et puis après, ben, l'Europe est arrivée, s'est greffée dessus. C'est vrai que j'aurais très bien pu faire un saut de puce au Maroc et puis faire quelque chose sur le quatrième continent. Voilà. Mais faut qu'il y ait un sens. Faut qu'il y ait un challenge. Et je me dis que, ben pourquoi pas, hein, moi je suis ouvert, hein, voilà, il faut trouver un bon budget et puis quelque chose qui a un bon sens, quoi, pas faire ça pour dire je fais ça et puis voilà, I am the best ou quoi que ce soit, quoi.
Alors, 2 mois après, est-ce qu'on est un autre homme ou est-ce que finalement on est toujours le même?
Ben malheureusement, je crois pas que je suis meilleur. J'aimerais être meilleur, hein, à chaque fois être meilleur et puis mais si je suis peut-être un petit peu plus à... J'essaye de m'améliorer vis-à-vis des autres.
Parce que cette souffrance, cette gestion de la souffrance, ces rencontres humaines, fatalement, on change, on évolue.
Ah bah c'est sûr, bien sûr qu'on change, on se rappelle de tout. Quand on voit quelqu'un qui est en train de marcher au bord de la route, on s'arrête pour lui demander s'il a besoin de quelque chose. On fait pas le gars qui rentre au boulot directement, on est plus à l'écoute des gens. Moi j'aimerais changer pour les autres. Pour moi, j'ai pas besoin de changer, mais j'aimerais changer pour les autres. Alors, est-ce que ça me fait changer? Oui, mais on revient vite dans le quotidien. Alors, moi, je pense que je reste le même, et parce que je veux rester humble et je veux pas, voilà. Je fais ça pour moi, c'est sûr, hein. Je le fais pour moi. J'essaye d'aider les autres. Mais si je pouvais apporter des choses, voilà, si je peux changer, c'est pour apporter des choses aux autres. Et ça me plaira bien.
Mmh. Bon, alors maintenant, d'autres objectifs, le Red 28 et puis le côté organisateur aussi va reprendre le clim.
Ah ben là, oui, c'est sûr qu'on est en plein dedans, là, donc on est en train de travailler déjà sur le prochain marathon, là, premier marathon de France, premier semi-marathon et 10 km qui aura lieu toujours le premier dimanche de janvier.
Donc, j'allais dire cette année, en 2018, hein, c'est le 7 janvier,
c'est ça? Ouais, c'est 7 janvier, ouais, 2018, ouais. Donc voilà, et puis je prépare aussi avec une amie une nouvelle course qui aura lieu, mais sur les Clés sous bois, un trail le 1er novembre, qui s'appelle le Trailowin, un très très beau parcours dans le bois des Clés sous bois et de Bois d'Arcy. Autrement, ben cette année normalement on relance le Trail des Villes Royales le 18 février. Mm-hmm. Donc on a sollicité les mairies pour avoir les autorisations.
On va rappeler que c'est Versailles à Rambouillet, hein.
Voilà, Versailles à Rambouillet par les chemins. Et puis on a relancé l'Ultra Trace, mais pour l'Ultra Trace de Saint-Jacques, donc pour l'été prochain. On la fera plus à Pâques, mais on va tenter l'été prochain pour essayer d'avoir un peu plus de monde.
Ah, carrément l'été, c'est plus le printemps, c'est carrément l'été.
Ouais, ce sera normalement en juillet, ouais, à partir du 8 juillet. Donc pour pouvoir permettre, parce que y a du monde qui travaille et qui peut pas poser 15 jours, donc pouvoir permettre à des coureurs de venir à cette période-là. Et puis une petite confidence, une nouvelle course qui aura certainement lieu au mois de juin, un nouveau concept qui n'existe nulle part. Et donc une petite course à pied très très sympathique et qui permettra aux coureurs de se mesurer à eux-mêmes.
Ah, d'accord, ok. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis le Montrail aussi, c'en est la ville, hein, qui plaît bien aussi. Hein, cette épreuve où on est attaché, là, qui se déroule traditionnellement au mois de mai ou juin.
Voilà, toujours aux alentours du 8 mai. Ben oui, le contrôle à Montrail que j'oubliais, qui est mon deuxième petit bébé en organisation, qui sera sur sa 11e édition et puis qui fait toujours le plaisir et les rires des coureurs, même... Et c'est un petit groupe, hein, on est toujours à peu près 200-300, mais c'est vrai que c'est très très convivial avec un bon casse-croûte à la fin et on passe vraiment de bons moments. En fait, voilà, c'est agréable de voir des gens qui sont heureux, qui font plaisir.
Et le Red 28, vous allez y aller si le Red 28 repart?
Alors le Red 28, si je vais y aller, je me fais aucun doute parce que c'est des gens qui sont volontaires et qui savent se mettre. Donc l'année dernière, ils ont un petit peu subi quelques problèmes administratifs, mais ils sont tellement sérieux que ils vont pouvoir gérer ces problèmes administratifs pour pouvoir avoir les autorisations nécessaires et sans tricher. Et ben moi c'est ma course référence ou que j'aime faire avec mes amis, donc si mon corps le veut bien, je serai encore sur la 28.
Ouais. Alors Patrick, une question qu'on vous dit toujours, comment vous avez le temps de tout faire? Parce que on l'a dit, vous débordez d'idées sportivement au niveau de l'organisation. Finalement, vivre sa vie à fond, c'est votre leitmotiv?
Ben oui, c'est vrai que quand je rentre du boulot, je me mets pas devant la télé, quoi. Hein, voilà, je Je suis peut-être devant un autre écran, je suis peut-être devant l'ordi, mais parce que je recherche des cartes, je fais des démarches administratives pour créer. Voilà, c'est une passion. Je pense que la passion, ça peut être la philatélie, ça peut être la photo. Il y a des gens qui passent des heures devant leur timbre, et j'accepte ça. Moi, c'est une passion, donc voilà, ça me prend mon temps, et puis j'aime ça, et puis. C'est agréable quoi de voir des gens en fin de compte chaque fois que je fais quelque chose j'accueille 200, 1000 coureurs j'ai du monde j'ai pas mal d'invités c'est bien j'ai du monde autour de moi
et toute nationalité en plus
alors oui sur le marathon l'année dernière on avait une dizaine de nationalités différentes 50 départements représentés donc c'est vrai que ça vient de toute la France donc voilà et puis je pense que là, en ce moment, il y a des gens qui m'écoutent d'un petit peu partout et qui viendront encore sur le marathon cette année.
Et puis, naturellement, Patrick, il y a aussi un certain besoin. C'est un besoin, finalement, toutes les aventures. Ça répond à certains besoins.
Bah, automatiquement.
Pour tous les gens, c'est vrai que de plus en plus, on a ce goût de l'aventure, on a ce goût de vivre autre chose.
Oui, le goût de faire quelque chose qui sort du commun. Et comme j'aime à me dire, c'est que le marathon de Cernay, si je l'organisais au mois de mai ou de mois de juin, j'aurais 50 coureurs. Mais étant donné que c'est tout de suite après le 1er janvier, que c'est le 7 janvier, eh ben les gens aiment se lancer des défis et l'année dernière on a fait 1000 coureurs sur les 3 courses quoi. Donc voilà, s'il y a un besoin, donc moi je fais partie de ces gens-là qui ont besoin de trouver des trucs un peu folles, de faire des trucs un peu folles et d'organiser des trucs un peu fous peut-être plutôt que folles et puis ben voilà, il y a une demande des gens de se dépasser et de faire des choses un peu dingues.
Merci Patrick, en tout cas, oui, vous étiez l'invité exclusif de cette émission ce matin, mais c'est normal, hein, votre aventure, eh bien, elle le nécessitait. Allez, la pub, la musique pour conclure cette émission.
La vie va trop vite, ton cancer est... Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi ?
Ben non, pourquoi ?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon ?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses. Et comment ça marche ?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détails de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Hello les amis, je viens de me faire plaisir à la boutique Bellamy à Rambouillet. J'y trouvais déjà des looks sympas, avec barbour et un éventail de chemises pour toutes les circonstances. Et pour ce printemps, je viens de m'offrir un total look Tommy Hilfiger. C'est un bon sportswear, c'est de bonne facture, c'est pour vous aussi, j'en suis sûr. Une offre élargie de la marque Tommy Hilfiger, ça vaut le détour à la boutique Bellamy. Un centre de la guirlande de Julie, à Rambouillet.
Voilà, bah, cette émission se termine. Alors Patrick, bah, vous allez avoir le mot de la fin, vous allez pouvoir peut-être faire encore quelques remerciements. Je voulais simplement vous dire que cette émission, elle sera réécoutée naturellement en podcast d'ici quelques semaines, et que vous aurez toute la saison pour réécouter cet exploit et cette aventure humaine que vous avez eu l'occasion de vivre dans trois continents.
Ouais, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup RVE. Oui, ben un bon moment de remerciement, merci de m'y faire penser. Donc oui, je veux remercier avant tout mes parents qui ont fait de moi ce que je suis, qui m'ont donné l'envie et qui m'ont permis d'aller au bout de mes rêves. Ma sœur qui m'a beaucoup aidé, ma kiné, Xavier qui m'a accompagné pendant tous les États-Unis, Christelle et Viviane et tous les copains et toutes les personnes qui m'ont... Je suis désolé d'en citer certains, mais merci à tous vous qui m'avez suivi et qui m'avez donné de la force d'avancer. Et je vous assure que quand je vous lisais, j'avais les larmes aux yeux. Merci à vous et je ne vous oublierai pas, c'était une belle aventure.
Très bien. Eh bien, merci Patrick d'être venu nous parler de cette belle aventure. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on parlera tennis, on changera de rubrique, notamment, on s'intéressera au trophée Hervé auquel vous avez participé, pas l'oublier. Oui. Il y a donc quelques années. Et puis, restez-nous fidèles tout au long de la semaine. Merci pour votre, en tout cas, immense fidélité. Et rendez-vous dimanche prochain, 10h, 11h. Bon dimanche et bonne semaine. Salut, merci.
Hervé, bonne matinée. Il est 11h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.